rythme brisé mais déterminé qui est présente chez nous en Belgique 3 jours après la mort de son mari au Parlement européen. Et dans une vidéo publiée ce matin, la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny a accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir tué son mari et promis de poursuivre son œuvre.
Noir vêtu, le visage grave mais forte, Yulia Navalnaya s'assied à la table des ministres européens des Affaires étrangères. La réunion est à huis clos, c'est donc loin des caméras qu'elle leur répète ce qu'elle avait déclaré le matin même dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Nous savons exactement pourquoi Poutine a tué Alexei il y a 3 jours. Nous vous le dirons bientôt. Nous découvrirons avec certitude qui a commis ce crime et comment il l'a fait. Nous donnerons des noms et montrerons des visages.
Ensuite, la veuve d'Alexei Navalny rencontre la ministre belge des Affaires étrangères. Pour Adja Labib, Vladimir Poutine représente clairement une menace.
La mort d'Alexei Navalny nous rappelle à quel point il est important de ne pas laisser Poutine gagner cette guerre en Ukraine, parce que c'est simplement permettre à Poutine d'étendre sa dictature avec toute la répression qui va avec.
Et pour montrer qu'elle soutient l'opposition en Russie, l'Europe a pris une décision toute symbolique.
In order to honor his memory, we propose the ministers to rename our human rights sanctions regime with his name and call it the Navalny Human Rights Sanctions Regime.
En Russie, la mère de l'opposant n'a toujours pas eu accès au corps de son fils. Les autorités russes ont prolongé l'enquête. Il leur faudra encore 14 jours. On ignore donc toujours les causes de la mort, mais un média russe d'opposition affirme que le corps présente des signes d'ecchymose et des traces de tentatives de massage cardiaque.
Cette visite a essentiellement des effets symboliques, mais pas seulement. C'est d'abord une façon pour l'Union européenne de témoigner de sa solidarité à l'encontre de Alexei Navalny, mais aussi de sa cause. Il était le principal opposant au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et l'Europe, en recevant sa femme, eh bien, rend hommage aussi à cette opposition. Alors Yulia Navalnaya, vous l'avez dit, a manifesté son intention de poursuivre la tâche de son mari. Elle est venue ici à Bruxelles 3 jours à peine après avoir appris le décès de ce dernier, et ça a été un moment effectivement très très poignant ici au Conseil. Alors parmi les ministres des Affaires étrangères qui étaient présents, plusieurs demandent de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, et ça non plus, ça n'est pas symbolique. Mais pour beaucoup, le soutien à Navalny, le soutien à l'opposition russe passe par le soutien à l'Ukraine. Vous y avez fait écho, la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib, l'a souligné. Pour elle, si l'Ukraine est envahie, si la Russie parvient à s'étendre, c'est une dictature qui va s'étendre et se rapprocher encore un peu de l'Union européenne. Fin de citation. Alors, la mobilisation dans ce sens, la mobilisation dans le sens de l'aide à l'Ukraine, eh bien ça c'est très très concret. C'était d'ailleurs un des points importants abordés ici par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne aujourd'hui à Bruxelles.
Elle marque un douloureux anniversaire, celui de l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie. C'était le 24 février 2022, il y a 2 ans donc. Toute cette semaine, nous allons retourner en Ukraine avec nos envoyés spéciaux. À cette occasion, on vous emmène à bord d'un train ukrainien. Ce transport est devenu crucial en pleine guerre. Aujourd'hui, ils sont toujours indispensables pour la circulation des civils, des marchandises et des militaires dans le pays. On embarque pour 14 heures de trajet jusqu'à Kiev avec Raphaël Albardier et Gilles Moine.
Sécurité et sous la neige. Ce train ukrainien avance prudemment sur les voies.
À gauche, après le carrefour, tout est OK.
Le conducteur et son adjoint sont vigilants. Les souvenirs des premiers jours de l'invasion sont encore bien présents.
Au début du conflit, j'ai vu des missiles passer près de mon train. C'était au tout début de l'invasion.
Héros discrets du conflit, les membres du personnel du chemin de fer sont restés à leur poste depuis 2 ans, au plus près des passagers. Une manière de participer à l'effort de guerre.
Nos soldats perdent leur vie au combat. Un de mes proches est à l'hôpital. Ils ne sacrifient pas leur sang pour rien. Nous devons les soutenir.
Une émotion que chacun dissimule à sa manière dans la pénombre des wagons. Nadia, grand-mère de 65 ans, est montée au premier arrêt à la frontière polonaise. Sa fille vit à Varsovie.
La guerre ne nous permet pas de nous voir facilement. Maintenant, c'est moi qui dois quitter l'Ukraine pour aller voir mon petit-fils. Beaucoup de familles font ça.
Deux années d'aller-retour entre paix et guerre qui fatiguent les nerfs.
Vous savez, c'est une pression
permanente. On vit sous une pression permanente. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas des alertes, que les Russes ne vont pas nous bombarder. Les grandes villes sont sous les bombes. On voit des centaines de personnes tuées. Les pertes qu'on subit sont immenses. Et parfois, je me pose la question, de quoi sommes-nous coupables? Pourquoi le destin s'acharne sur nous?
Dans les couloirs, le chef de bord est sur le qui-vive. Il est en charge de la sécurité des passagers.
À l'époque, on baissait les rideaux parce qu'on craignait que les Russes prennent le train pour cible. Maintenant, il y a moins de menaces parce que notre ciel est protégé par les forces aériennes d'Ukraine. Aujourd'hui, c'est surtout pour le confort des passagers.
La menace est moins importante, mais il faut rester prudent. Le train ne reste en gare que quelques minutes. Il vaut mieux en temps de guerre être en mouvement pour ne pas être pris pour cible. Et puis au cas où, dans chacune des stations, il y a des abris anti-aériens pour les passagers. Pour le moment, tout est calme. Dans la cabine numéro 7, Yuri fait son lit. Et avant de se coucher, c'est un rituel, le militaire appelle sa femme.
Allô, allô, ça va?
Elle est réfugiée au Royaume-Uni avec leurs 3 enfants.
Bien sûr qu'il me manque. Quand je pars en mission militaire, je ne sais jamais si je pourrai appeler à l'heure. C'est à ce moment-là que ma femme a des crises de panique, alors j'essaye d'envoyer au moins des petits messages.
5 heures du matin, nous arrivons à Kiev à l'heure et sans encombre. C'est une nouvelle mission accomplie pour le personnel du chemin de fer ukrainien, qui repart déjà à bord de ce qu'on surnomme ici le train de la victoire.
Se préparer à la guerre au cas où la situation venait à déraper en Ukraine, c'est un avertissement que l'on a entendu partout en Europe ces dernières semaines. Déclic vous propose d'ailleurs un numéro spécial ce soir pour débattre de ces questions.
Vladimir Poutine, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cuir l'actu pour répondre à vos questions. Nina Bashkatov, docteur en sciences politiques à l'université de Liège. Bonsoir et merci d'être avec nous. L'actualité la plus brûlante, c'est la mort d'Alexei Navalny. On a posé la question à nos téléspectateurs et internautes via l'application Opinio. Pensez-vous que Vladimir Poutine a joué un rôle dans la mort de l'opposant Alexei Navalny? La réponse est oui, à près de 90%. C'est l'objet de la première question de cette émission. Elle sera posée par votre première question.
Bonsoir madame, bonsoir Sacha. Comme beaucoup, je me demande si c'est Poutine qui a fait exécuter Navalny. Bien sûr, en l'envoyant là-bas, il était à peu près sûr qu'il n'en reviendrait pas, mais il aurait pu le faire exécuter nettement plus tôt. Donc je me demande quel était l'intérêt de Poutine de garder Navalny aussi longtemps en vie.
Votre réponse.
Un, c'était gênant de le tuer de façon trop visible. Deuxièmement, je dirais que Poutine n'a certainement pas pris son téléphone en disant « voilà, il est temps d'exécuter ce monsieur ». La troisième chose, c'est qu'il y a quand même une erreur de casting. Parce que si on regarde, sa mort intervient au moment où il y a la conférence pour la sécurité à Munich, où les États-Unis et l'Union européenne discutent de l'aide financière supplémentaire à l'Ukraine, et où Zelensky est à Paris et à Berlin. Donc j'ai quand même l'impression que s'il y avait une volonté de ne pas le laisser sortir vivant, en tout cas dans le court terme, qu'il est vraiment mort au mauvais moment, et on voit la récupération de la propagande russe en disant finalement, regardez, ça tombe trop bien pour les Occidentaux.
Oui, évidemment, très difficile de voir clair. Rappelons qu'il va y avoir une enquête en cours, hein, qu'on ne fait pas la justice sur les réseaux sociaux. Alexei Navalny était malade aussi, ça peut avoir joué. En tout cas, il apparaissait très affaibli.
Mais il avait été empoisonné quand même avec un poison dont il avait survécu, mais ça laisse des séquelles quand même très très importantes, le Novichok. Et puis, il était détenu dans des conditions quand même très difficiles. Et j'ai l'impression qu'en fait, on l'a sorti de prison parce que l'autre prison ne voulait pas assumer sa mort parce qu'il était vraiment en mauvaise condition. Il y a ce long voyage pendant plusieurs jours et puis cette perte de contact. Donc il s'est passé là quelque chose.
Mimi, ceci. Malheureusement, la population russe n'a pas le droit de manifester son mécontentement envers Poutine. Sinon, n'y a-t-il pas longtemps qu'il aurait été renversé? Un mot sur sa popularité. Il est encore soutenu par une majorité de la population?
Il est soutenu, oui. Pas parce que les gens sont naïfs ou idiots, ou tout ce que vous voulez, ou non cultivés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et je crois que le secret d'un pouvoir fort, c'est de ne pas laisser se développer une alternative. D'où l'obsession quasiment de toute opposition crédible qu'on a vue. Mais je suis certain qu'il ne devra pas forcer son talent pour être réélu au premier tour avec une majorité confortable. Même si je crois qu'on pourrait assister à quelque chose d'intéressant. J'ai entendu par exemple que la femme de Navalny demande à tout le monde d'aller voter à midi. Donc ce n'est pas un geste de résistance, ce n'est pas une manifestation publique, ce sont des citoyens qui, par hasard, vont se retrouver. Donc il y a quand même des petites choses intéressantes, mais renverser, il ne faut pas rêver. Ça fait 20 ans que je dis, il ne faut pas rêver.
Alors évidemment, au niveau des tensions internationales, beaucoup ont leurs idées, c'est le cas de Fassol et l'Ukraine. La guerre se terminera plus vite et de la même manière parce que l'Ukraine n'aurait aucune chance de gagner. C'est cette aide qui crispe Poutine. Cette aide crispe Poutine et le rend nerveux?
Il est vite crispé, quand même, il faut avouer. Mais l'aide, si l'aide est interrompue demain, la guerre n'arrêtera pas, parce que les Ukrainiens sont décidés à continuer. Il manque d'hommes, ce qui est finalement beaucoup plus important que de manquer de matériel. Les Occidentaux ne sont pas prêts à aller plus loin que ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'instructeurs, entre guillemets, sur le terrain, déjà depuis 2014. On fournit le maximum d'armes qu'on peut. À la fois que nous on peut livrer et que les Ukrainiens peuvent gérer. Donc je crois qu'on est dans une période avec justement ce front qui bouge, dans une période extrêmement sensible, et j'étais intéressée de voir la réaction de Zelensky à la mort de Navalny, où il était à Paris et il était finalement, il a fait le service minimum, et donc ça veut bien dire que les Ukrainiens ne font confiance à aucun Russe, même aux Russes de l'opposition.
À propos de confiance, il y a évidemment ce qui va se passer dans quelques temps ou pas. Pensez-vous que Vladimir Poutine envisage une action militaire vers les Pays-Baltes et vers l'Europe? Certains services de renseignement le disent. Alors oui, vers les Pays-Baltes, oui, c'est pas la bonne question, mais donc manifestement on n'arrive pas à charger le bon écran. Mais donc manifestement, pour plus de 66%, il y a une attaque là qui va se préparer un jour ou l'autre. Charles nous dit ceci, que Poutine attaque directement un pays de l'OTAN me semble pour le moment improbable. Par contre, qu'il finance des groupuscules indépendantistes afin de créer des instabilités en attaquant les autorités et leurs armées, là oui c'est possible, sans oublier les attaques informatiques. Petit souci pour afficher ce qui doit l'être au bon moment, mais on va avancer quand même. Une attaque maintenant, plus loin, vers des pays baltes, vers l'Europe, beaucoup le disent, ou en tout cas le sous-entendent, possible ou pas?
Vous savez, ça me rappelle la guerre froide, où on nous disait en 48 heures, les chars soviétiques peuvent défiler dans les Champs-Élysées. On attend quand même toujours. Le fait des Pays-Baltes, les Pays-Baltes soutiennent cette thèse pour avoir un maximum de support depuis la fin des années 90, lorsqu'ils ont négocié avec les Américains, pas avec les Européens, l'élargissement de l'Union européenne comme une sorte de compensation à l'élargissement de l'OTAN pour que ça ne fâche pas trop les Russes. Et donc depuis lors, on a cycliquement, je ne crois pas, et je vois qu'il y a quand même beaucoup d'analystes maintenant qui sont en train d'introduire des nuances assez extraordinaires en disant la Russie peut faire la guerre aux pays de l'OTAN sans utiliser l'arme. Et effectivement, la Russie a une capacité de nuisance assez extraordinaire sans devoir utiliser simplement de dépasser la frontière.
On ressort de ce studio, on retrouve Michel Mérus, une habituée, une fidèle de l'émission. C'est pour ça qu'on lui a laissé poser deux questions. Rebonsoir, on vous écoute à nouveau.
Moi, je me pose beaucoup de questions sur la personnalité de Poutine. Est-ce que c'est un individu très intelligent, manipulateur, bien sûr, mais qui sait très bien où il va et comment il va le faire? Ou alors, c'est un grand égocentrique, un fou furieux qui n'a plus aucune notion du monde dans lequel il vit et dans un monde dans lequel il fait mourir beaucoup de gens?
Il nous reste moins d'une minute.
Oui, c'est un peu tout cela, mais je crois que la vraie dangerosité de Poutine réside dans le fait qu'il s'est maintenant inscrit dans une personnalité qui est le champion de la défense de la Russie, et il se sent un peu comme un croisé. Et donc, même les papes, il n'y a pas tellement longtemps, ils ont quand même commencé à démissionner quand ils étaient trop vieux. Je ne crois pas que Poutine s'inscrit dans cette logique-là. Donc il est très logique, il est très rationnel, et il est insensible à ce qu'on pourrait appeler le bon sens.
Merci Nina Bashkatov pour vos éclaircissements.